Bonjour et bienvenue à ce dernier jour de ce week-end anti-nucléaire organisé par la Fédération anarchiste. Alors je vais peut-être un peu me répéter pour ceux qui étaient là hier, mais bon voilà, ça ne vous fera pas de mal. Alors la Fédération anarchiste, c'est une fédération de groupes anarchistes francophones. Chaque groupe milite à sa façon, à son autonomie, mais les campagnes, ce sont des instants politiques qu'on a tous décidé ensemble en congrès. Et cette année, enfin, au congrès précédent, on a décidé cette année de joindre nos efforts pour parler de la lutte antinucléaire. Et donc, ce week-end est organisé dans ce sens. Alors. Aujourd'hui, il y a essentiellement quatre groupes de l'AFA qui sont représentés. Le groupe Macno de Saint-Étienne, le groupe Gaston Leval de région parisienne et deux groupes de Marseille, le groupe Y et le groupe Germinal. Bien sûr, on est disponible si vous avez des questions par rapport à l'anarchisme, etc. Mais on va parler aujourd'hui essentiellement de nucléaire et je vais passer le micro à un représentant du lieu, la DAR, qui nous invite pour ce week-end et qui va vous expliquer le projet actuel.
Moi, je ne sais pas si je suis vraiment représentant, mais toujours est-il que je suis un usager du lieu. Donc la DAR, centre social autogéré, anciennement connu comme la DAR La MIFA, donc un café associatif. Depuis peu, là, on a lancé une campagne de dons pour financer le rachat du local, pour devenir proprio du local. Voilà, c'est un lieu qui accueille des soirées, mais aussi des activités en journée, surtout sur dans une dimension sociale, toujours à prix libre. C'est un lieu qui est ouvert sur le quartier et je ne sais pas ce que je pourrais en dire plus, et on pourra aussi en discuter au bar pour les détails, mais l'idée, c'est d'avoir un achat via le CLIP, qui est une organisation qui nous permettrait un peu de sortir de la propriété, voilà, ce lieu, d'une certaine manière. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir aller dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, là, du coup, puisque c'est un week-end antinucléaire.
Voilà, donc nous sommes des gens, des cofondateurs en fait, d'une coordination antinucléaire du Sud-Est, qui regroupe des groupes informels des Bouches-du-Rhône, du Gard, du Vaucluse, des Alpes de Haute-Provence et d'autres départements de PACA. Voilà. Nous sommes sur une position depuis 15 ans, donc ça a été créé il y a 15 ans, fondé, sur une position d'arrêt immédiat, inconditionnel et définitif du nucléaire. En ce sens, on se distingue d'un certain nombre d'autres groupes antinucléaires qui soit ont pour objectif ou pour proposition d'une décroissance du nucléaire progressive, alors que nous, on estime qu'il y a danger immédiat, arrêt immédiat. Voilà. Donc, notre type d'organisation est très souple. Est informel. Nous ne sommes pas une association, nous ne sommes pas une organisation structurée. Nous sommes des gens qui agissons en fonction des objectifs qu'on peut se déterminer à telle ou telle occasion et qui va fédérer autour de l'action un certain nombre de personnes pour agir. Voilà. Donc ça, c'est le premier volet. Le second volet, c'est que nous avons donc un site grand public d'information et de relais des actions. Donc d'informations sur la réalité du nucléaire en région PACA et d'actions lorsque nous menons des actions. C'est un site de relais de l'action et de l'explication du pourquoi de l'action. Voilà. Donc à la fois donc, un site de dénonciation des méfaits du nucléaire et aussi un site de stimulation de l'action contre le lobby nucléaire. Alors c'est coordination-antinucléaire sans accent. -sudest.org. Voilà. Et tous les documents, ou la plupart des documents que nous allons diffuser, mais il n'y en a pas beaucoup, proviennent du site du Mouvement contre le crime atomique, MCCA, dont le site internet est MCCA-AIN, pour arrêt immédiat du nucléaire.org. Sur ce site du MCCA, il y a beaucoup aussi de vidéos, de reportages et de témoignages de victimes des effets de la radioactivité et de scientifiques et de toubib et de chercheurs. Ah, oui, il a tiré. Il t'a provoqué, il a dit que c'était des résilients. Voilà, donc comment on va se répartir la parole entre Antoine et moi. Là, je vais vous évoquer brièvement la réalité du nucléaire en région PACA, le nombre d'installations, etc. Antoine développera un peu plus et beaucoup plus même sur le projet, le fameux projet ITER, qui est le projet de fusion nucléaire, qui est présenté comme quelque chose de révolutionnaire, techniquement parlant en tous les cas. Et donc il va démystifier l'objet, le sujet de la chose. Et moi j'interviendrai après Antoine sur le Tricastin, qui est la zone la plus nucléarisée d'Europe. Voilà. Ah oui, bah c'est moi, je continue. Donc en PACA, on a essentiellement trois sites, trois et quatre sites, mais disons trois sites principaux nucléaires. Je parle de sites atomiques, c'est-à-dire pas uniquement les installations électronucléaires. Parce que la réalité, comme on l'a vu ces dernières après-midi ou soirée, on ne peut pas distinguer l'électronucléaire du reste de la filière, et notamment de la filière militaire. Puisqu'à l'origine du nucléaire, c'est le militaire, c'est la bombe atomique. Alors, parmi les trois grands sites atomiques, on a dans les Bouches-du-Rhône Cadarache, donc qui est pas loin d'ici, et qui regroupe 22 installations nucléaires de base. Installations de recherche, installations de développement, etc. Antoine développera sur Cadarache. C'est essentiellement des installations militaires, d'ailleurs, même si elles ne sont pas secrètes, elles travaillent pour le militaire. Pas toutes, mais l'essentiel. Voilà. L'autre grand site atomique, c'est le site de Marcoule, dans le Gard, qui comporte 14 INB, dont 5 INBS, INB, installation nucléaire de base, INBS, installation nucléaire de base secrète, donc militaire. C'est le berceau de la bombe atomique, Marcoule. C'est-à-dire que c'est là qu'a été développée la fabrication du plutonium dans deux réacteurs qui s'appellent Célestin, Célestin 1 et Célestin 2, et pour fabriquer la bombe atomique dans les années 1950 à peu près, 55. Voilà. Donc beaucoup d'installations à Marcoule qui sont à la fois civilo-militaires, donc du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique, d'Areva Orano qui a la maîtrise, enfin la haute main en tous les cas, sur le cycle de production, et quelques rares installations d'EDF, malgré tout, notamment un four de fusion de matières métalliques radioactives issues des différents sites nucléaires de France. Donc un four qui fonctionne à 1400 degrés, qui fusionne les matériaux de ferraille et d'acier, issus souvent de démantèlement ou de réorganisation des installations, et qui produisent en fait comme des lingots métalliques qui vont servir éventuellement à l'intégration dans des biens communs, tels des casseroles, du métal de voiture, etc. Donc la voiture électrique, au-delà de ça, qui n'est pas évidemment très écolo, a aussi potentiellement de la ferraille radioactive. Ce four de fusion a explosé il y a maintenant une dizaine d'années, provoquant la mort de plusieurs ouvriers, dont l'un a dû être mis dans un cercueil en plomb, tellement il était radioactif, et il a été expédié dans son pays d'origine, l'Espagne. Et d'autres personnes, d'autres salariés, d'autres travailleurs ont été blessés gravement. Voilà. À l'époque, je fais une petite parenthèse, à l'époque, EDF, qui pilotait ce four, avait déclaré qu'ils étaient dans les normes, et il s'est avéré que, après enquête, l'autorisation qu'ils avaient de volume de ferraille à fusionner avait été multipliée et dépassée trois fois, quoi. Voilà. Bon, ça fait partie des agissements quotidiens, ça, de la nucléocratie et des militaires et des civils. Le troisième site, c'est Tricastin, donc à cheval sur la Drôme et le Vaucluse. Tricastin, c'est aussi un important site nucléaire qui a 12 installations nucléaires, là encore du un peu plus vaste, c'est-à-dire le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, puisque là a été élaboré les produits de fusion radioactive pour la bombe, dans l'usine Comurex de Pierrelatte. C'est un site qui accueille pas mal d'installations d'Areva Orano, donc du cycle de production de l'uranium, notamment ce qu'on appelle l'enrichissement, donc qui est l'étape qui suit un premier enrichissement d'uranium qui a lieu à Narbonne, à l'usine de Malvézie, qui ensuite arrive au Tricastin, est à nouveau enrichi en UF6 et hexafluorure d'uranium, mais je ne vais pas entrer dans le détail technique. Cet enrichissement d'uranium est envoyé ensuite à Saint-Romain, en Drôme, dans le nord de la Drôme, où ces produits vont être compactés et mis en pastilles qui serviront. Alors, quand je dis pastilles, ce n'est pas ça, hein, c'est des grandes galettes, en fait, qui font 50 cm de diamètre et qui vont servir à constituer les crayons. Ce qu'on appelle les crayons, là encore, ce n'est pas le crayon de table, hein, c'est des crayons qui font 50 mètres de haut et qui serviront à être placés dans le cœur du réacteur pour être bombardés, pour provoquer la réaction en chaîne nucléaire et la fusion, et la fission des atomes. Donc Tricastin, c'est Areva Orano, c'est le CEA et c'est EDF avec sa centrale électronucléaire de 4 réacteurs de 900 MW qui sont les plus anciens après Fessenheim, au même titre que Dubuget, les 4 réacteurs les plus vétustes et les plus délabrés de France. Alors, c'est expédié par camion, anonymisé. Ils sont blancs, c'est des camions de 15 tonnes, hein, voilà, qui sont complètement indiscernables, mais qui circulent sur l'autoroute A6. Donc, quand vous prenez l'autoroute, vous pouvez être au contact de camions qui transportent les matières radioactives. Voilà. Mais je reviendrai après sur Tricastin. Voilà. Ensuite, il y a d'autres installations nucléaires hormis ces trois sites importants, dont un certain nombre sur Marseille, que peut-être vous ignorez, qui existent. Voilà. Sur Marseille, donc, je dis rapidement, il y a une INB et deux entreprises nucléaires, deux sièges d'entreprises nucléaires. L'INB, c'est l'unité de ionisation des fruits secs. C'est-à-dire que par cette technique dite de ionisation, mais qui est en fait de la radioactivité, une irradiation des fruits secs, non bio, provenant de différents pays, ils tuent donc toute la vie potentielle bactérienne qui pourrait exister dans ces fruits secs que vous achetez, que vous consommez sans le savoir, et qui sont donc officiellement non porteurs de radioactivité, mais qui sont quand même des supports qui ont reçu la radioactivité. Donc ça, c'est l'INB de Marseille qui s'appelle Gamaster. Pour conserver les fruits secs sans qu'ils pourrissent, ils ont élaboré un système de projection de radiation sur les fruits de façon à ce que les bactéries ne se développent pas, les bactéries nocives qui engendrent le pourrissement, et donc que les fruits soient sec soit durablement consommable et commercialisable surtout. Oui, sauf les bio. Mais dès que vous achetez des fruits secs qui ne sont pas bio, a priori, ils ont été ionisés, donc ils ont reçu des doses de radioactivité. Ça peut se produire aussi sur les fruits frais, hein, mais c'est essentiellement pour l'instant les fruits secs, quoi. Voilà. Et donc à Marseille, il y a aussi la division, et là c'est important, c'est la division du parc nucléaire d'EDF. Donc ce sont des bureaux, mais c'est là que s'élaborent toutes les stratégies de développement et d'investissement d'EDF en région PACA. Donc ce n'est pas négligeable comme installation, même si ce n'est pas une INB, une installation nucléaire de base, c'est quand même le haut lieu de la décision de prolongation, d'ajustement des installations nucléaires de PACA. Et puis, on a la deuxième entreprise qui travaille pour le nucléaire, qui est Onet Technologies, qui est l'entreprise dite de nettoyage, mais qui concourt donc au démantèlement et aux interventions de mise en propreté des sites nucléaires, c'est-à-dire qui envoie de la main-d'œuvre souvent intérimaire au contact des pires saloperies que ne veulent pas faire, évidemment, les travailleurs, les salariés d'EDF ou d'Areva. Voilà. Donc c'est un gros marché, ça, que détient Onet Technologies. Ça emploie 800 personnes hein, dans la région PACA, c'est pas rien. Et ces personnes sont envoyées sur les différents sites nucléaires, civils ou militaires, pour faire les sales boulots, le sale boulot. Voilà. Voilà ce que je peux dire. On peut rajouter, mais c'est hors région, mais comme la radioactivité n'a pas de frontières, on peut rajouter le site de Cruas-Metz qui se situe en Ardèche. Voilà, là-haut. Pardon. Au-dessus de mon doigt, voilà. Cruas, voilà, j'orientais mal. Donc Cruas-Metz, ce n'est que le site EDF, 4 réacteurs, pas très jeunes non plus, mais qui cumulent beaucoup d'incidents, tout comme Tricastin et notamment. Voilà. Donc on est ici, Marseille, on peut dire qu'on est juste en dessous, un quadrilatère de la mort, avec Cruas, Tricastin, Cadarache dans les Bouches-du-Rhône et Marcoule dans le Gard. Et à cela, il faut ajouter évidemment les installations purement militaires en dehors de Cadarache et des autres sites comme au Tricastin, les installations militaires de Toulon, où il y a la base effectivement navale des sous-marins nucléaires, notamment, et du porte-avions nucléaire Charles de Gaulle, donc qui est aussi une grosse installation liée au nucléaire militaire, notamment. Si ensuite vous avez des questions spécifiques, je pourrais développer. Nous avons aussi les camps d'entraînement militaire de Cugers et de Carpiagne, qui sont des camps à la fois d'exercice de tir, donc qui utilisent du matériel militaire à base d'uranium dit appauvri, hein, puisque, comme l'a expliqué Gilbert, je crois, hier, Tricastin produit l'uranium appauvri pour l'armement, notamment pour les missiles ou les obus à forte pénétration dans les chars, notamment, ou dans les bâtiments civils ou militaires, comme ils ont utilisé, par exemple, en Irak ou ailleurs, en Bosnie, dans la guerre de Yougoslavie et aussi actuellement en Ukraine, des deux côtés. Voilà, donc c'est autant de lieux qui sont qui nous cernent en quelque sorte. Les installations nucléaires militaires ne rejettent pas directement de radioactivité dans l'air ou dans l'eau. En revanche, les installations nucléaires de Tricastin, de Cadarache, de Marcoule et de Cruas rejettent évidemment au quotidien, jour et nuit, de la radioactivité et différents radiocontaminants qui atteignent différents organes. Vous avez un petit flyer sur la table qui explique là où se fixent les radiocontaminants, les radioéléments, les éléments radioactifs en fonction des tissus ou des organes ou du squelette ou du cœur ou du cerveau, etc. Voilà ce que je pouvais dire sur la région PACA. Ensuite, est-ce qu'on fait un jeu de questions-réponses tout de suite ou sur la région PACA, ou est-ce que tu développes sur Cadarache? Voilà, ok, d'accord.
Oui, bon, moi c'est Antoine Calandra, donc c'est vrai que moi je fais partie de la coordination antinucléaire sud-est, et auparavant j'étais dans une association qui n'existe plus, Médiane. Donc enfin, moi je suis basé près de Pertuis, et Pertuis, nous, c'est, donc il y a Cadarache hein, qui n'est pas loin, alors qui n'est pas très loin de Marseille, hein, un vol d'oiseau c'est 50 km, hein. Et donc, c'est vrai que moi, bon, j'ai passé beaucoup de temps, je fais beaucoup d'écrits pour dénoncer les dangers de Cadarache et d'ITER qui est arrivé après. Et donc, c'est vrai que je me suis intéressé à ITER depuis le tout début, quand le projet était encore dans des cartons, qu'on ne sait même pas ce que c'était, ce truc-là. Donc, il y a eu toute la compétition qu'il y a eu, la France sélectionnée pour représenter l'Europe, puis après, qui a battu le Japon. Enfin, bon, donc, et puis tous les travaux, les galères, parce que c'est une folie complète, hein, cette histoire d'ITER. Voilà. Donc, bon, moi, j'ai fait... C'est vrai que j'écris plus des articles que faire des animés comme ça. Donc, je crois que je ferai un texte, je pense, qui sera plus clair et plus complet pour un peu vous parler de Cadarache éditeur. Voilà. Donc, Cadarache, donc, c'est 2500 centres nucléaires qui est dans les Bouches-du-Rhône, qui fait 2000 hectares, hein, qui existe depuis 1959. Hein, il y a 5500 personnes qui travaillent. Hein, c'est le plus grand centre de recherche hein, en France. Et 2500 qui sont du CEA. Donc, c'est sûr que c'est pas comme Tricastin ou Marcoule, mais enfin, on présente ça souvent comme un centre de recherche, mais c'est loin d'être qu'un centre de recherche. Hein. Et puis, Cadarache est situé sur la faille sismique la plus active de France, hein, la faille Aix-en-Provence-Durance, hein, et puis proche d'une autre faille, celle de la Trévarez, qui a généré le plus grave séisme en 1959, hein, en 1909, pardon, hein, d'intensité 9. Hein, donc voilà, donc c'est toutes ces installations, il y en a donc 21, hein, qui sont situées sur une faille sismique. C'est vrai que j'ai pas dit... voilà. C'est vrai que j'ai pas dit le nombre. Donc il y en a. Bon, oui, donc il y a 20, on a dit, c'est ça, 21 installations nucléaires de base, dont une installation nucléaire de base secrète propulsion nucléaire, donc qui s'occupe du perfectionnement des réacteurs nucléaires pour les sous-marins et les porte-avions, et aussi de la dissuasion militaire. Mais à Cadarache, donc il y a des réacteurs de recherche, des installations d'études de combustible, des sites d'entreposage de déchets radioactifs. Et puis d'autres projets en cours, hein, comme bon, il y a le réacteur Jules Horowitz, qui a un projet qui est en construction depuis longtemps pour irradier les combustibles, pour faire des essais d'irradiation. Et puis il y a ITER. Voilà. Et ces installations ne sont pas toutes, évidemment, dimensionnées au risque sismique. C'est pour ça qu'il y en a plein qui vont fermer, parce que ça coûte trop cher de les remettre aux normes. Il y a l'installation CEDRA, hein, qui s'est créée en 2006, justement pour stocker tous ces déchets, parce que déjà à Cadarache, depuis les années 60, il y a beaucoup de déchets qui étaient stockés n'importe comment, dans des tranchées. Bon, voilà. Donc déjà, ils ont créé ce site de stockage pour déjà mieux conditionner, mieux entreposer tous ces déchets qui étaient un peu de partout dans des failles, et aussi pour tous les déchets à venir, parce qu'évidemment, comme il y a beaucoup d'installations qui vont être démantelées, c'est vrai qu'il y aura de plus en plus de déchets. Donc, CEDRA donc est prévu pour accueillir pas mal de mètres cubes. Pour l'instant, en 2021, il y avait plus de 13 000 mètres cubes de déchets qui étaient entreposés à Cadarache. Hein, c'est comme, voilà. Bon, je dirais un mot aussi sur la TPU, hein, qu'on a beaucoup parlé, hein, qui était l'atelier du plutonium, qui fabriquait du MOX, hein, pour Areva pendant 40 ans, hein, qui a traité là-bas 50 tonnes de plutonium. À Cadarache, donc on est loin d'un centre de recherche. Donc c'est Mellox qui a repris la suite à Marcoule, hein, parce qu'évidemment, cette installation n'était plus aux normes depuis longtemps. Mais ça ne les a pas empêchés en 2004 d'accueillir, il y a eu 140 kilos de plutonium américain qui était arrivé, là on s'était battu pour s'opposer à ça, parce que bon, pour des assemblages MOX pour les États-Unis qui ont été faits. Voilà. Bon, maintenant ça y est, le démantèlement est en cours. Donc voilà, donc déjà, il est complètement insensé, délirant d'avoir foutu sur une faille sismique un si grand nombre d'installations nucléaires et de sites d'entreposage de déchets, quoi. Donc ITER, donc ça veut dire en français réacteur thermonucléaire expérimental international. Donc c'est un projet de fusion qui a été lancé en 2006 avec 6 pays partenaires. Donc il y a l'Union européenne, la Russie, le Japon, les États-Unis, la Chine, l'Inde et la Corée du Sud. Alors, les objectifs d'ITER, je vais d'abord présenter un peu ITER. Donc là, je prends la plaquette, c'est ce qu'ils disent, hein, pour les objectifs, c'est montrer qu'il est possible de produire de l'énergie propre et abondante grâce à la fusion nucléaire par confinement magnétique dans un tokamak. Le tokamak, c'est des machines en forme d'anneau, des métalliques, c'est une invention des physiciens soviétiques dans les années 50-60. Donc, au centre de ce tokamak, il faudra atteindre une température de 150 millions de degrés, ce qui est 10 fois la température du Soleil, pour former un plasma et faire fusionner des atomes de deutérium et de tritium, qui sont deux isotopes de l'hydrogène. Mais comme aucun matériau, évidemment, ne peut résister à de telles températures, donc il y aura des aimants supraconducteurs, c'est-à-dire qui est maintenu à moins de 270 degrés, qui sont prévus pour tenter de contenir ce plasma, pour surtout pas qu'il touche les parois, sinon tout est mort, quoi. donc comme un bouclier magnétique. Et donc le but d'ITER, c'est de générer une puissance, là aussi c'est ce qu'ils disent, de 500 MW pendant plus de 6 minutes en en injectant 50, donc faire 10 fois plus. Mais là, bon, j'en parlerai après, ce qui est complètement faux de toute façon, parce qu'ils ne tiennent pas compte de tous les éléments, donc ce ne sera jamais 10 fois plus. Donc pourquoi notre opposition à ITER ? Ben déjà, ITER, bon, pour nous, c'est un tissu de mensonges depuis le début. Hein. Déjà, leur slogan qui vante une énergie propre, abondante, sans déchets pour les bienfaits de l'humanité, bon, ça c'est complètement mensonger, il n'y a rien de vrai là-dedans. Une énergie propre, donc certainement pas. Hein. Donc l'autorité de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, elle a reconnu hein, que la toxicité du tritium, elle avait été largement sous-évaluée. Hein. C'est un isotope radioactif de l'hydrogène, qui est quasiment impossible à confiner, et par contre qui est très vite absorbé par l'organisme, et qui peut évidemment s'intégrer à l'ADN au cœur des cellules. Et les réacteurs nucléaires, ils en rejettent involontairement des quantités énormes dans l'environnement. Il a une période, certes, plus courte que l'uranium-238, par exemple, qui est 4,5 milliards d'années, mais enfin, le tritium, il a une demi-vie, ça aussi, de 12,3 ans, ce qui veut dire qu'en fait, il faut 200 ans pour qu'il ne soit plus du tout radioactif. Donc voilà, on n'est pas du tout dans quelque chose de propre. Hein. Le tritium n'est pas non plus abondant. Il y en a 25 kilos dans le monde. Bon, la France, elle en produit 1 kilo par an, laborieusement, pour son arsenal militaire. Évidemment, l'espoir, c'est de générer, grâce à ITER, de générer du tritium dans l'enceinte même du réacteur. Mais ça, c'est purement théorique. De toute façon, ils ne le savent pas faire, puis ce n'est même pas vraiment au programme du projet ITER. Donc, une énergie respectueuse de l'environnement, ben ça non plus. Hein. Sinon, une énergie qui est dangereuse pour l'environnement et qui est dangereuse pour la santé. ITER va utiliser pour sa combustion une quantité démesurée de matières premières, des matières rares qui sont précieuses et qui sont dangereuses. Bon, j'ai parlé du tritium, hein, et il y a aussi le béryllium. C'est un des métaux les plus toxiques du monde, même à dose infime, hein, et qui serait utilisé pour le recouvrement du réacteur. Et en électronique, on l'utilise à l'échelle du gramme, hein, parce que tellement c'est toxique. Hein, et ITER va en consommer 12 tonnes, donc déjà, c'est un délire complet. Ou encore, il y a aussi prévu, il y a 450 tonnes de niobium. Hein, pour ça, c'est pour les aimants supraconducteurs. Ça, c'est un élément chimique rare, qui est pareil, qui est hautement toxique, principalement pour les poumons et pour les os. Bon, je peux dire un mot de l'eau aussi, hein, dans les biens précieux. Hein. ITER, il en consommera presque autant par an qu'une ville comme Pertuis, par exemple, une ville de 20 000 habitants. Et par moment, autant qu'une ville d'un million d'habitants. Pendant les opérations de fusion. C'est-à-dire qu'il y aura 12 mètres cubes secondes pendant les opérations de fusion, si ça devait marcher. Hein, parce que bon, voilà, ça, je mets beaucoup de si, parce que quand on voit comment c'est parti ITER, je ne suis pas sûr que ça marche un jour. Bon, puis en plus, les tokamaks, c'est des machines, c'est très instable, ça c'est leur problème, hein, c'est une vieillerie soviétique, hein, et qui sont complètement obsolètes. Et les problèmes, c'est les disruptions. C'est-à-dire c'est des coupures courtes qui sont probables et ça qui mènerait complètement d'un seul coup à la perte totale du plasma et ça ferait des dégâts considérables. Donc ça c'est un des dangers si ça marche. Bon, même les scientifiques pro-nucléaires les disent. Bon, ça c'est... Bon, enfin bon. Donc en fait, si l'expérience avec le tritium, parce que le tritium, ils l'utiliseront pour ITER à la fin, quand tout sera... Parce que si ils mettent le tritium de suite, ça sera fini. Parce que ITER, il faut se dire, quand ils utiliseront le tritium, à la fin, ITER va finir comme un déchet nucléaire de 30 000 tonnes, hein, parce que de toute façon, comme il n'y a aucun matériau qui résistera à ce bombardement, donc c'est prévu qu'ITER, à la fin, ce sera 30 000 tonnes de déchets radioactifs. Donc pour ça, quand on parle d'un truc propre, ça c'est sur la plaquette du CEA. Hein. Voilà. Bon, voilà. Bon, en plus, bon, évidemment, hein, un gâchis colossal d'argent public. Hein, au départ, ITER, c'était 5 milliards d'euros pour la construction et 5 milliards ensuite pour les expérimentations et la maintenance qui sont prévues pour 35 ans. Bon, le coût de 5 milliards d'euros annoncé pour la construction, il était largement sous-estimé. Ils le savaient très bien, c'est un mensonge. Hein. Mais s'ils avaient annoncé le double ou le triple, le projet, il n'aurait pas été retenu. Donc maintenant, il a déjà quadruplé. On en était à 20 milliards en 2018. Bon, depuis, je n'ai plus trouvé de chiffre officiel. Hein. On en est sûrement au moins à plus de 25 milliards aujourd'hui. Et voilà. Mais on attend les nouveaux chiffres parce que je vais vous dire, bon, il y a à nouveau des gros, gros problèmes. Donc, et puis alors, le côté obtenir 10 fois plus d'énergie que la puissance injectée, c'est-à-dire 500 MW en en injectant 50, ça c'est complètement mensonger. Parce que la machine, elle a besoin déjà de 150 MW pour son fonctionnement en continu. Et il faudra même par intervalle rajouter 500 MW. Donc au mieux, si ITER vraiment était un succès, on arriverait à 1,6 de résultats de plus. Donc c'est vraiment carrément dérisoire. Bon, puis je peux passer aussi là où on s'était opposé, hein, dans l'opération ITER, c'est la mascarade de débat public hein, qui a eu lieu une fois qu'ils avaient décidé de construire ITER en France et à Cadarache. Ils ont rasé une forêt, une belle forêt domaniale de 90 hectares, hein, qui a été rasée pour construire ITER. Voilà, bon, voilà, peu d'emplois à long terme finalement, mais enfin bon, voilà. Donc le projet propre, enfin le projet d'avenir et le projet propre, bon, je le vois pas trop. Donc on en est pour l'instant où en est ITER. Donc pour l'instant, on en est à 10 ans de retard. Hein, le premier plasma, le premier calendrier, il disait 2016. Donc en 2016, ils ont revu le calendrier. Maintenant, on parlait de 2025, qui va bien sûr être porté parce que la construction, là, bon, ça a été dit en novembre, j'étais à une réunion publique de la CLIL, bon, il y a gros problème. Et bon, malgré tout, dans le chantier, nous disent qu'il serait à 85% de sa finalisation. Ce que je doute franchement, bon, c'est sûr qu'il y a les composants de la machine qui continuent d'arriver, la construction des bâtiments à l'avance, mais alors la phase d'assemblage, elle commence à peine, hein, et c'est vraiment la phase la plus compliquée. Et donc là, voilà le premier problème. Déjà, pour satisfaire les différents partenaires du projet, la chambre à vide, elle est composée de 9 modules. Il faudra que ces modules, ils soient vraiment très, très étanches pour une étanchéité absolue. Mais pour satisfaire ces partenaires, donc la fabrication de ces modules, elle a été répartie entre plusieurs pays, ce qui est vraiment une hérésie sur le plan scientifique. Et donc, parce que ces éléments, ils demandent une symétrie parfaite pour avoir une étanchéité absolue. C'est vrai qu'il aurait fallu un seul fabricant. Et donc, évidemment, en novembre 2002, il y a eu deux gros problèmes qui sont arrivés par rapport à ces modules. D'abord, des problèmes de soudure dans les 3 premiers modules qui viennent de Corée du Sud. Ça a généré des déformations jusqu'à 2 cm quand on pense qu'il faut une étanchéité absolue et qui empêche évidemment l'assemblage des autres modules entre eux. Il y a 9 modules en tout, ça fera 360 degrés. Et le deuxième défaut, des fissures de corrosion de plus de 2 mm sur les écrans de protection thermique. Et là aussi, ça pourrait aboutir à des fuites bon, pendant le refroidissement. Si, voilà. Donc en fait, ces 3 modules, ils doivent être désassemblés. Et ils avaient mis 3 ans pour les assembler. Donc il faut désassembler. Et en plus, le plus gros, c'est que le premier des 9 modules, il avait déjà été installé dans la fosse d'assemblage. Donc il va falloir le ressortir, le démonter, le réparer, le réassembler et le redescendre dans la fosse. Et chaque module, c'est 1380 tonnes et 18 mètres de haut. Ils avaient passé plus d'un an pour planifier l'opération de descente de ce module dans la fosse et 50 personnes qui travaillaient pour plusieurs entreprises et des organisations différentes. Voilà. Donc, le travail... Donc, et l'ASN, pourtant, l'ASN avait déjà alerté, ils n'ont pas en mai 2020, justement, de la non-conformité de ces modules. Et lors de l'inspection en 2022, elle avait même dit bon, qu'il n'y avait aucune mesure corrective qui avait été prise en compte. Et ils avaient marqué dans leur rapport, donc, vraiment des gros défauts de culture de sécurité. Donc, alors, est-ce que ce problème, il est limité aux 3 premiers modules? Est-ce qu'il concerne aussi les 6 autres modules qui composent la chambre à vide? Mais comme ils ne sont pas arrivés à Cadarache, ils n'en savent rien. Est-ce que c'est un problème dans la conception? Bon, pour l'instant, alors, ils n'en savent rien. Donc, Pietro Barabacci, qui est le 4e directeur d'ITER depuis octobre, bon, il succède, c'était Bernard Bigot avant, qui est mort au mois de mai. Et donc, ce nouveau directeur, il va donner à la fin de l'année un nouveau calendrier et un nouveau coût pour la construction. Donc, la première expérience de fusion, évidemment, elle ne sera pas donc pour 2025. Les experts, ils parlent d'un milliard d'euros supplémentaires et de 2 ans de retard, mais évidemment, ce sera beaucoup plus cher et beaucoup plus lent. Ça, c'est évident. Et chaque jour de retard, ça aussi, j'avais été surpris, c'est une question que j'ai posée, c'est 1 million d'euros environ chaque jour de retard. Donc, en gros, 10 ans rien que pour les retards, ça fait 3 milliards. Et côté travaux, il y avait déjà eu un grave problème qui n'était pas résolu au niveau du blindage radiologique de l'installation. C'est un blindage de béton qui fait 2 mètres d'épaisseur, qui doit être installé autour du réacteur pour protéger le personnel une fois les expériences avec le tritium. Mais apparemment, il ne serait pas assez épais et il faudrait l'épaissir encore. Mais comme la dalle qu'ils ont prévue pour supporter les 400 000 tonnes du tokamak, hein, parce que le tokamak, c'est énorme, hein, Et c'est pas sûr, donc s'il faut rajouter un poids d'armature supplémentaire, donc c'est pas du tout garanti que la dalle puisse supporter ce poids d'armature supplémentaire. Donc voilà, donc encore, ça je sais pas comment ils vont régler ce problème. Voilà. Mais en tout cas, il est pas réglé celui-là. Donc voilà, bon, enfin, s'ils arrivent à régler ça, c'est évident qu'il y aura d'autres galères qui vont suivre. Bon. Comme après, voilà, il y a la couverture, je parlais tout à l'heure, là, la couverture des parois internes du réacteur, qui fait de 12, avec 12 tonnes de beryllium. Ça, c'est un métaux les plus toxiques du monde, même à dose infime. Bon, il y a 450 membres ITER qui vont être vraiment exposés à ce beryllium. Bon. Et puis après, mais pourtant, ils parlent toujours, donc la suite, parce que ITER, évidemment, la suite, après ITER, c'est, il y a DEMO, qui est un réacteur pré-industriel. Alors là, si on arrive dans le délire total, hein, parce que la barre, elle est placée bien plus haute. Les réacteurs, déjà, ITER, déjà, c'est un monstre, c'est monstrueux, c'est énorme. Alors, le DEMO, il devrait être 15% plus grand. Un plasma 30% plus dense, parce que c'est sûr que là, on n'est pas... Une production de 2000 à 4000 mégawatts d'électricité, pas 500, et puis en plus, pas pendant 6 minutes, il faudra que ce soit en continu. Et aussi, évidemment, parvenir à produire du tritium à l'intérieur de la machine, à partir du lithium qui est bombardé. Enfin bon, donc c'est carrément, évidemment, et sans contaminer l'enceinte métallique qui protège tout ça. Donc en fait, c'est carrément délirant, de toute façon, ils ne savent absolument pas faire, enfin, je ne vois pas comment... Bon. Enfin, mais bon, mais ce qui est à part ITER, ce qui est quand même, c'est qu'il y a beaucoup d'autres projets dans la fusion nucléaire. Déjà, étant donné de la lenteur d'ITER, bon, il y a pas mal de pays qui se sont intéressés sur d'autres projets sur la fusion nucléaire. L'Allemagne, elle a son réacteur expérimental, c'est le Stellarator Wendelstein. Bon, les Stellarator, c'est des variantes de tokamak, c'est le même genre, mais c'est avec une forme plus torsadée. Voilà. La Chine, elle a 6 réacteurs à fusion nucléaire expérimentaux qui seraient en état de fonctionnement. Et en mai 2020, ils ont un tokamak, la HIST, qui aurait maintenu pendant 101 secondes un plasma de 120 millions de degrés. Bon, voilà, bon, on tue dans les secondes et des petits trucs en combat. Et puis, on a beaucoup parlé là, ces derniers mois là, du réacteur américain là, de fusion nucléaire par confinement inertiel, là, le NIF, là, le National Ignition Facility, là, comme une avancée majeure. Une percée historique parce qu'il a obtenu un gain de 1,53, pardon. Voilà. Mais voilà, mais là aussi c'est pareil, ça a été hyper médiatisé, ça a été repris sur, bon, moi j'en ai lu des articles de tous les côtés. Et mais bon, c'est vraiment à relativiser parce que là aussi, le NIF, pour fonctionner, bon, déjà il engloutit 90 mégawatts, hein, et on nous dit qu'il faudrait des gains supérieurs à 100. Pour que ce soit pour produire une électricité à un prix acceptable, multiplié par 100. Et puis de toute façon, le NIF, c'est comme le laser mégajoule qui est en construction près de Bordeaux. Là, c'est pas du tout leur problème. Leur objectif, c'est pas de le produire l'électricité. Leur objectif, il est militaire. Donc eux, c'est pas vraiment leur problème. Donc l'utilisation, voilà. Et puis, il y a de plus en plus d'engouement pour la fusion nucléaire. Hein, ça, c'est bon. Évidemment, les institutions militaires, elles sont très intéressées par la fusion, hein, par le tritium, pour leur armement, et puis pour mettre une nouvelle génération. Enfin, ils en ont besoin pour leur tête nucléaire. Ils en ont pour créer de nouvelles bombes atomiques. Enfin, pour un peu améliorer tout leur armement nucléaire. Et côté civil aussi, hein, bon, de plus en plus, c'est impressionnant, il y a de plus en plus, il y en avait très peu avant, mais là maintenant, actuellement, il y a à peu près 45 start-up qui, à travers le monde, qui travaillent sur la fusion, qui ont investi dans la fusion nucléaire. Hein, et donc, bon, ils misent carrément sur un avenir proche. Ils pensent que d'ici dans 10 ans, ils vont gagner de l'argent avec la fusion nucléaire. Et bon, parmi, il y a beaucoup de privés. Parmi les privés, il y a Bill Gates ou Google hein, qui a investi là-dedans. Hein. Et bon, évidemment, donc tous ces gens-là, ça, ils espèrent bien retomber sur leurs pieds avec l'argent qu'ils ont misé. Bon, parce que quand même, ils sont encore pires. Ils parlent de 10 ans parce que disons, Cadarache et ITER, bon, eux, quand ils disent la suite, DEMO et compagnie, eux, ils parlent de 2050. Mais bon, ça ne sera jamais en 2050. Mais les autres, carrément, dans 10 ans. Bon, enfin, donc, toute façon, l'utilisation industrielle de la fusion comme énergie nucléaire civile, elle n'est pas pour demain, elle ne se fera sûrement jamais. Hein. Bon, c'est tant mieux. De toute façon, c'est un avenir beaucoup trop lointain. Il n'y a aucune rentabilité énergétique à attendre. Et puis, beaucoup trop d'inconnus technologiques. Donc ITER, il parle pourtant pour la deuxième moitié du siècle. Bon, enfin, donc, pour finir, moi, je dirais que donc, la fusion nucléaire, ce sera ni, comme on parle, une révolution pour l'humanité, ni l'énergie du futur. C'est pas une énergie propre, c'est pas une énergie abondante. Elle est dangereuse pour la santé et elle produit des déchets. Donc, son intérêt, avant tout, il est militaire. Et puis, il est pour sauver, évidemment, aussi, hein, la filière nucléaire, hein, qui est vraiment mal en point, quand, malgré tout, hein, depuis plusieurs années. On est incapable de fabriquer un nouveau réacteur. Enfin bon, ils sont carrément incompétents. Mais bon, donc ITER, ça finira probablement par un fiasco. À mon avis, je pense que pire que Superphénix, hein, qui a quand même, qui devait être le fleuron de l'industrie nucléaire française. Mais bon, en dilapidant tous ces milliards d'euros, ITER, il a quand même réussi à bloquer tout avancée vers un autre modèle énergétique. Ça, c'est vraiment ce qu'on aurait pu faire vraiment autre chose avec tous ces milliards. Et du coup... Hein, ça leur permet de nous imposer le nucléaire plus facilement, du genre, bah, oui, il n'y en a que le nucléaire. Et c'est vrai que, bon, voilà. Et puis ce mythe, comme je disais, là, ce mythe d'une énergie gratuite et inépuisable qui nous permettrait de consommer, de gaspiller indéfiniment, là, il faut en finir avec ce délire dont on entend toujours, et qu'on croit, dont certains croient toujours que... Voilà, puis ce gigantisme, voilà, donc il faut en finir avec ce gigantisme, cette centralisation de la production dans l'état des mains d'état dirigiste puissant au service des plus riches. Enfin bon, c'est tout un système là, de toute façon, qui est à abattre. Hein. Voilà. Bon, les solutions pour le futur, bon, ben, on le connaît depuis longtemps, hein, évidemment. Hein, économiser l'énergie déjà, arrêter de gaspiller, développer et améliorer les énergies renouvelables. Hein. Qui sont les vraies solutions d'avenir, qui sont propres. Mais évidemment, ce qu'il ne faut pas faire, c'est les développer de manière industrielle et centralisée. Et c'est évidemment ce qu'on est en train de faire. Bon, donc toute cette industrialisation du monde, elle est à combattre. Hein. Il faut vraiment... Et puis avant, c'est ça, moi, avant de partir sur un nouveau projet de l'énergie, il faut déjà partir sur un nouveau projet de société. Voilà. Donc évidemment, l'avenir, pour moi, c'est des petites unités de production, locales ou régionales, une technologie accessible au plus grand nombre et peu gourmande en énergie, ce qui éviterait le coût de la distribution, du transport. Voilà, donc la fusion nucléaire, pour finir, donc c'est comme la fission, hein, c'est une énergie dangereuse, sale et coûteuse. Une technologie qui est réservée aux pays riches, qui est complexe, centralisée, qui provoque prolifération, dépendance, injustice et guerre. Voilà ce que je pouvais dire de la fusion nucléaire. Merci.
Alors, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, je passe le micro et c'est déjà le cas.
Merci beaucoup pour la présentation à tous les deux. Moi, j'avais entendu parler de ITER, mais j'étais resté un peu sur l'échec de l'EPR à Flamanville. Et du coup, je ne savais pas, d'une part, que ITER, c'était un projet de fusion. J'ai été un peu au courant, là, dernièrement, des... pseudo-avancées dont certains ont présenté sur le fameux système américain. Et comment ? Donc déjà, merci pour cet éclaircissement. Je me pose, du coup, ça me pose une question. C'était par rapport à hier, on a parlé, on disait ce système, il se veut... entre guillemets pragmatique et surtout rentable. Mais en fait, là, en rediscutant, ça me vient à l'esprit et je me dis, mais est-ce qu'on est sûr de ça ? Parce que dans le fond, on perd de l'argent avec tout ça et ils ne peuvent pas ne pas le savoir. Donc, alors là, moi, pour moi, du coup, je me dis, c'est vraiment parce qu'en fait, le but est autre. Donc, j'entends militaire, point, c'est tout. Mais parce que là, actuellement, on sait que le coût de l'énergie nucléaire à l'heure actuelle, il est 3 fois plus élevé que les énergies des renouvelables qui sont en train de baisser. Ouais. Et là, on voit que, comment dire, on est en train de parler de projets dont on parlait il y a 15-20 ans, que ça allait être génial. 15-20 ans après, c'est pas démarré. On n'a pas démarré la phase de construction. Enfin, mais allô ? Donc, en fait, comment dire ? Alors, du coup, je voulais vous demander Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que, en fait, c'est pas
je trouve ça, j'ai toujours trouvé ça délirant, mais ça montre en France la puissance du lobby nucléaire, qui est quel que soit, on pourra aller lâcher des milliards, et puis tous les partis, le lobby nucléaire en France, il est partout. Hein, on regarde tous les partis politiques, ça, les nouveaux projets nucléaires, ce sera accepté sans problème. Hein, il y a tous les partis quasiment qui vont voter pour. Hein, et voilà, et ils savent très bien, ou alors... En fait, c'est pareil, c'est que c'est aussi grave si c'est des ignorants. Mais en tout cas, ils le savent très bien, le coût du nucléaire, il est connu, c'est évidemment. Je sais pas combien ça aussi se calcule, j'ai jamais réussi à savoir combien de milliards on a mis depuis le début dans le nucléaire. C'est monstrueux. Et puis le nucléaire, de toute façon, depuis le départ, il a été fait avant tout pour être militaire. Hein. La fission, c'est pareil. Hein. Le départ, c'était militaire, c'était pas du tout pour le civil. Hein. Ça, c'est pour faire passer la pilule. Parce que ça a jamais été une énergie rentable et efficace.
Allô.
Excuse-moi, je complète un peu. On peut dire que si les règles du capitalisme s'appliquaient, il y a belle lurette que le nucléaire serait terminé. Parce que ce n'est absolument pas rentable. Le gros avantage du nucléaire pour les dominants, c'est de pouvoir jouer au niveau géopolitique international des muscles de façon à s'approprier des richesses à la fois naturelles et humaines, et puis c'est de pouvoir compter sur l'État, donc les finances publiques, donc les contribuables, donc la population, pour financer tout ce jeu sordide de mort. Donc le nucléaire sans État, et du point de vue capitaliste, ne peut pas fonctionner.
Mais d'ailleurs, aux États-Unis, le nucléaire, il a baissé pour ça, parce qu'il a été privatisé, et du coup, il a quand même bien chuté.
Oui, allô ? Oui, c'est bon. Moi, j'aimerais bien revenir juste sur la première partie, parce que je viens du Gard aussi, à la base, vers Bagnols-sur-Cèze. Donc, du coup, c'est un peu le triangle des Bermudes, avec Marcoule, Tricastin et tout ça. Et c'est une ville qui s'est juste fondée sur les centrales nucléaires qui poussaient à côté. À la base, c'était un patelin. Et vu qu'il y a eu les centrales, ça fait plein d'emplois. Du coup, il y a des milliers de personnes qui sont accumulées. Ça fait une ville de 25 000 habitants. Et du coup, je me demandais au niveau, est-ce qu'il y avait des études d'impact sur la santé des populations dans ces régions et tout ça ? Parce que moi, ce que je vois, c'est que depuis que je suis gamin, tous mes potes qui avaient fait des études pour être paysagiste et tout ça ont fini décontamineurs à Marcoule, parce qu'il y avait des primes de risque. Et du coup, il y a une attraction au niveau de l'emploi. Là-bas, c'est vraiment soit l'armée, soit le nucléaire, soit la vigne. Donc en général, le nucléaire, c'est le premier truc parce qu'on reste proche de la famille, sauf si on a de la famille qui est dans la vigne. Enfin, et quelques-uns se barrent, soit dans l'armée, soit ailleurs. Bon, j'ai réussi à me tirer. Et du coup, il y a un truc autour, je sais pas, au niveau de la génération de mes parents, et du coup des parents de tous mes amis d'enfance, la quantité de cancer est juste affolante. Je me demandais s'il y avait des études qui faisaient des liens sur ce... Enfin, voilà, vu qu'on parlait de cette région, je sais qu'il y a eu pas mal de fuites à Tricastin. On voyait ça dans le journal passé, mais sans plus d'un mot, enfin, voilà.
Oui, alors... on connaît les effets, enfin on connaît, ils sont niés, mais officiellement, mais on connaît effectivement les effets délétères sur la santé des radiations nucléaires, de la désintégration. Quand on parle nucléaire, c'est comme un peu hier, on parlait de combustible et j'intervenais pour dire non, le combustible nucléaire n'existe pas, il n'y a pas de combustion, ce sont des produits de fission. Et donc il n'y a pas de combustible, il faut rétablir, se réapproprier les termes. Zut, j'ai perdu le fil de mon propos. Oui, alors, aussi sur le terme nucléaire, là aussi, c'est un raccourci qui nous a été imposé au niveau des termes, alors que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. En France, on nous a imposé le terme nucléaire. Mais ce qui est à l'œuvre, c'est la destruction de l'atome. C'est de la destruction atomique. Qu'elle soit civile ou militaire, ce qui se passe dans les réacteurs, c'est de la destruction atomique. Ce n'est pas du nucléaire. Donc là aussi, peut-être nécessité de se réapproprier un langage qui soit libre par rapport aux dominants et au système idéologique dominant et utiliser les termes appropriés. Voilà, je ferme la parenthèse et je réponds plus précisément à ta question. Tous les sites nucléaires ont été installés dans des zones paysannes, rurales, qui étaient pauvres la plupart du temps et qui généraient peu d'emplois, hormis les emplois agricoles ou de paysannerie agricole. Donc effectivement, quand les sites nucléaires ont été proposés ou imposés plutôt aux populations locales, elles ont vu, d'une part, les populations locales étaient beaucoup moindres qu'actuellement, et elles y ont vu effectivement un moyen de survie, de gagner sa croûte, et donc de pouvoir de faire accepter les projets nucléaires dans les différentes régions. Sur l'aspect, ensuite, sur l'aspect sanitaire, sur l'aspect de santé publique. En France, et notamment dans la vallée Rhône-Durance, donc disons PACA d'une façon générale, il y a un refus d'élaborer et de publier un registre sanitaire des cancers. C'est le département Vaucluse, le département Bouches-du-Rhône et Gard refusent au niveau des ARS, des agences régionales de santé, d'élaborer et de recenser l'ensemble des cancers, évidemment un recensement non nominal, évidemment, donc d'avoir un registre sanitaire des cancers. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays ou dans d'autres régions même, mais ici, on est vraiment, comme on est au cœur de la production militaire nucléaire, atomique, il y a vraiment un verrouillage complet, à tel point que, y compris des toubibs qui sont soit dans la coordination antinucléaire du Sud-Est, soit des amis ou des compagnons, qui ont proposé de bosser gratuitement pour élaborer un travail de recherche scientifique sur les cancers dans la région. Donc ils ont proposé de travailler gratuitement. Ce qu'ils ont demandé simplement aux ARS ou à la région, c'est de subventionner un poste d'assistante secrétaire pour un peu aider à trier les données, etc. Et ça a été refusé. Et nous-mêmes qui avons sollicité les ARS pour avoir les résultats et les données sanitaires de cancer, notamment des enfants, on nous a refusé l'accès à ces données qui sont parcellaires. On nous a renvoyé vers l'Observatoire régional de la santé, qui lui-même qui est basé à Marseille, et qui lui-même nous a dit « Non, nous, on n'a pas de données, on ne mène pas d'études. » Donc il y a vraiment un verrouillage sur ces aspects d'impact sanitaire et des cancers. En revanche, dans d'autres pays, Angleterre ou Allemagne, il y a eu des études de mener sur l'impact des installations nucléaires dans un rayon de 5 ou 10 km autour, pas plus. Hein. Et effectivement, on constate une augmentation des cancers, notamment qui frappent les enfants, autour des centrales nucléaires. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Angleterre. Alors, l'argument sorti ou avancé par la nucléocratie, c'est de dire « Mais ceux qui ont des cancers dans ces régions-là, c'est parce qu'ils fument beaucoup. » Sauf que les enfants atteints de ces cancers, ils ne sont pas fumeurs. Voilà. Voilà. Et donc, dans le Gard, notamment autour de Marcoule que tu évoquais, effectivement, il y a des tas de villages. Je pense à Saint-Marcel d'Ardèche, où on a des compagnons, des amis, des militants, où, effectivement, il y a des rues entières de cancers. Parce que ce petit village se trouve en surplomb de Tricastin, donc du côté de l'Ardèche, mais reçoit toutes les retombées radioactives continuelles, jour et nuit, du site nucléaire de Tricastin et de celui aussi de Marcoule, donc, qui est là aussi un émetteur intense de radioactivité. Donc très difficile de contraindre l'institution à fournir et à mener des enquêtes sanitaires, c'est verrouillé, est très difficile, hormis de donner la parole aux victimes, enfin en tous les cas aux familles de victimes ou aux victimes qui ne sont pas encore décédées, très difficile aussi que les bouches s'ouvrent, parce que comme tu l'as dit, la plupart des gens travaillent dans le nucléaire dans la région, sont tenus, excusez-moi l'expression, par les couilles, parce qu'ils bénéficient évidemment de l'emploi, de salaires parfois assez confortables, et surtout de prêts à taux zéro ou de conditions financières et matérielles qui permettent d'accéder à petite propriété privée et donc de la fermer.
Alors j'ai un petit peu le mauvais rôle, mais il y a déjà 4 personnes, 5 personnes en jeu, donc il faudrait faire des réponses.
Plus court.
Voilà. Merci.
Ma question, elle est toute simple ou très courte. C'est énorme ce que vous avez expliqué, c'est insupportable. Et moi, je suis étonnée que par rapport à cette cette énormité. On dirait que le sujet n'existe quasiment pas ici en France. Là, nous sommes un nombre très limité de personnes qui réagissent ou qui sont peut-être désireux de réagir. Je suis toujours étonnée par rapport à une réaction minime dans la population et à l'inexistence du sujet. Pour moi, il y a une grande contradiction que je n'arrive pas à m'expliquer. Peut-être vous avez...
Je crois que je dirais juste que côté communication et côté moyen, on n'a pas les mêmes. Hein, donc c'est vrai que nous, on dénonce ce qu'on peut, mais on est loin de pouvoir se faire entendre autant. Hein. Donc c'est vrai que c'est tout ce langage... Oui, puis il y a beaucoup d'ignorants. Je crois qu'il y a des gens qui ne cherchent même pas aussi à savoir les dangers... du nucléaire. Et même ITER, c'est vrai que ITER, pour revenir à ITER, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup, à la limite, bon, je crois que... C'est vrai que les gens ne savent pas du tout où en est le projet, on parle toujours, et puis pourtant, ils continuent sur leur site, sans arrêt, à vanter leurs avancées, hein, régulièrement. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que les gens ne savent pas beaucoup, c'est vrai que cette histoire... Et même moi, la dernière réunion publique pour ITER, où j'étais allé, j'étais le seul... Ça me devient grave, c'est que même les militants se sont un peu délaissés ces réunions, ces espèces de grand-messes. J'étais quasiment le seul là-dedans. Mais par contre, on apprend des choses. C'est là où j'ai appris, je l'aurais appris plus tard par la presse, mais j'ai appris pendant toutes ces galères qu'ils ont eues récemment, en novembre. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien répondu.
Oui, voilà, c'est 60 années de propagande et de conditionnement. Avec des arguments du style la grandeur de la France, l'indépendance énergétique de la France, etc. Donc, que ça soit la droite ou la gauche, effectivement, puisqu'il y a un continuum depuis De Gaulle, le militaire, il y a un continuum en France, de quels que soient les gouvernements et les orientations dites politiques des gouvernements, mais qui ont tous été des gouvernements et des présidents libéraux. C'est effectivement le soutien permanent à l'industrie nucléaire par la pénétration de l'appareil d'État, par l'école militaire polytechnique et l'école des mines qui sont dans les cabinets ministériels. Les gouvernements passent, les présidents passent, mais c'est eux qui déterminent la politique énergétique et industrielle de la France. Voilà, je fais très court. Donc, comme dit Antoine, on résiste avec les moyens qu'on peut, mais c'est une lutte disproportionnée, quoi.
Moi j'ai trois petites questions, donc si c'est trop long, je ne veux pas monopoliser la parole. Mais la première question, c'est le beryllium, ce produit donc hyper toxique, et c'est un métal rare si j'ai bien compris. D'où il est, de quel pays il est extrait?
Je me souviens pas, c'est un pays, je me souviens pas, j'ai lu un truc, c'est sûr que ça ne loin, je ne sais pas si c'est Amérique du Sud, enfin bon, de toute façon, il vient, et je crois qu'ils vont utiliser quasiment toute la production de beryllium qu'on est capable de sortir, quoi.
Voilà, encore des gens qui ont bien de la chance de pouvoir travailler.
Oui, voilà, on est en train de massacrer aussi un pays, parce qu'en plus, sûrement, pour l'extraire aussi, je n'ai pas le risque de contamination qu'il y a là aussi.
Il est technique aussi pour extraire les métaux rares.
Mais c'est loin de chez nous.
La question, j'étais vraiment pas au courant. Je pensais qu'avec le semi-fiasco déjà d'ITER, je savais pas qu'autant d'autres pays travaillaient sur des projets de fusion nucléaire. Et en particulier, tu as dit, donc en Chine, il y aurait 6 réacteurs de type fusion nucléaire en fonctionnement. Ça veut dire que ça marche?
Expérimentaux, hein.
Ah, expérimentaux.
Ils sont pareils. De toute façon, c'est un peu la course. Le premier qui va y arriver à produire, à sortir. Là, c'est la course aux chiffres, là. 101 secondes, 141... Mais pour l'instant, voilà. Mais de toute façon, je pense que tout sur le plan rentable, à mon avis, il n'a pas trop à s'inquiéter. Je pense qu'il n'y a rien de rentable qui sortira pour pendant encore des années, et puis sûrement même jamais. Et puis de toute façon, il y a un délire aussi, parce qu'on est dans la grandeur. Parce que là aussi, ils ont le problème de la fusion, c'est qu'ils n'arrivent pas. Pour maintenir ce plasma, il faut que ce soit grand. Chaque fois qu'ils ont fait ça dans les trucs petits, ça ne tient pas, donc il faut que ce soit grand. Et donc, là, on parle des monstres encore plus grands. Donc, où est-ce qu'on va construire aussi ces gros monstres de... Puis le nombre de matériaux. J'avais fait une liste une fois de matériaux d'ITER, entre le béton, les enfin, tout ce qui est la ferraille, le béton, l'acier, enfin, tout ce qui est utilisé, mais c'est incroyable, ce produit, ce gaspillage et ce tas de matières premières. Donc voilà, donc ça aussi. Enfin bon, enfin voilà, cette fois, ça reste dans tous les cas, ça reste expérimental. Mais ce qui est quand même inquiétant, c'est tous ces nouvelles start-up là, qui se lancent là-dedans. Et donc je pense qu'en plus là c'est des gens qui veulent du fric quoi, ils ont investi là-dedans, donc ils vont tout faire pour pousser à ce que la fusion avance quoi.
Oui, mais je suis étonnée que les pays eux-mêmes, regardant la France, continuent à investir là-dedans. Je comprends pas.
Ah oui, oui, oui.
Mais la troisième question que j'avais, c'est justement, puisque d'autres pays développent la fusion, est-ce que le renouveau, enfin le développement du nucléaire est aussi important dans d'autres pays que chez nous, puisqu'il y a quand même beaucoup de pays comme l'Allemagne, la Suisse, etc., qui ont diminué leurs centrales. Est-ce qu'il y a un renouveau, un redéveloppement du nucléaire dans beaucoup de pays ou pas ? Je ne sais pas du tout.
Pas du tout, hein, parce que tu veux répondre.
Oui, non, bah, c'est ça, c'est que...
La France, c'est l'exception.
Est paru dernièrement, il y a 2 mois, le rapport mondial indépendant sur le nucléaire, qui montre qu'il y a moins de réacteurs nucléaires en activité aujourd'hui qu'en 1989. Donc tout ce qu'on peut entendre, et ça rejoint un peu la question que tu posais, tout ce qu'on peut entendre sur le développement du nucléaire, y compris dans le monde, est faux. Le nucléaire représente au niveau de la consommation mondiale d'énergie autour de 3%. Donc c'est ridicule. Alors, est-ce qu'il le relance ? Or, aujourd'hui, les projets qui ne sont toujours pas aboutis, c'est l'EPR de Finlande, qui n'arrive pas à démarrer au bout de 13 ans de retard et des surcoûts. C'est l'EPR de Flamanville en France qui n'a toujours pas démarré. C'est les retards en Angleterre d'Hinkley Point de 2 réacteurs EPR, mais qui ne sont pas anglais, puisque EDF a racheté la compagnie anglaise d'électricité et se passe commande à lui-même, avec une garantie de l'État français sur le prix du kilowattheure. Voilà. Et puis ensuite, il y a la Chine. Et hormis la Chine qui développe des EPR, et parce qu'ils ont des immenses besoins, il n'empêche que le développement du nucléaire en Chine est bien moindre que le développement des énergies renouvelables en Chine. Voilà. Et puis il y a les projets d'Inde. Et puis ensuite, il y a tous les projets dont on entend parler, mais qui ne voient jamais le jour, comme en Turquie. Ça va faire 30 ans qu'ils parlent de développer une centrale nucléaire en Turquie. Et depuis 30 ans, malgré les annonces d'EDF et d'Areva, ce n'est toujours pas le cas. La réalité chiffrée, vous pouvez aller chercher sur Internet ou via le site de la coordination, le rapport mondial indépendant sur le nucléaire. Vous verrez que tous les chiffres indiquent une baisse du nucléaire dans le monde et une croissance beaucoup plus rapide des énergies renouvelables. Pas forcément, comme le disait Antoine, des énergies renouvelables proches des besoins des gens et re-questionnées sur les besoins et décentralisées, mais toujours est-il que c'est la réalité. Le nucléaire est en baisse depuis 5 ans au moins. Oui, tu voulais...
Dans les centrales classiques.
Les centrales classiques existantes ? Il y en a quasiment pas. Il y en a un peu dans les pays de l'ex-bloc soviétique. Et les projets qui émergent, mais ce ne sont que des projets et des idées, ce sont les small reactors, les SMR, dits petits réacteurs parce qu'ils sont en dessous de la production de 900 mégawatts, donc des réacteurs qui seraient adaptables aux pays pauvres. C'est un nouveau créneau marchand qu'ils tentent de mettre en place, puisque les pays en voie de développement ou les pays pauvres n'ont pas les moyens financiers. Donc le jeu de Bonneteau qui est derrière tout ça, c'est les banques occidentales financeraient les États de ces pays pour acheter des small reactors qui pourraient répondre à leurs besoins. Et évidemment, ce seraient des pays endettés, donc dépendants de l'Occident et des compagnies occidentales, et donc qui serviraient simplement de nouvelles ressources pompes à fric d'exploitation colonialiste.
Et puis, ce qu'il faut, je rajouterais, qu'il faut dire que ça, ça reste purement théorique, parce que c'est un truc encore ça qu'on ne sait pas faire, qu'ils ne savent pas faire, ça n'a jamais été fait. C'est comme l'EPR, là, on n'a pas réussi. On parle de PR2. C'est quoi le PR2? Ça n'existe pas. Pour l'instant, c'est quoi un PR2? On ne sait même pas ce que c'est. Donc, c'est small reactor. Enfin, tout ça, pour l'instant, c'est que de la théorie. Hein.
Oui, moi, c'est en prolongement avec deux questions. Une sur la santé, enfin liée à la santé, et liée à l'étonnement. Et je comprends tout à fait l'étonnement, surtout par rapport à ce que vous dites, et puis même par rapport à ce qui se passe, quoi, de l'absence de réaction, voire du désintérêt, voire des mains qu'on se met devant les yeux. Voilà. Donc, un élément qui a été que tu as un peu abordé, sur lequel je voudrais insister, c'est le rapport à la santé. Parce que, en fait, la santé des populations et des gens qui travaillent, hein, faut jamais les oublier. C'est parce que dans l'esprit de ceux qui savent un peu ce que c'est le nucléaire, oui, bon, de temps en temps, il y a des accidents, mais c'est au loin, les Français, on est les meilleurs. Bon, il y a cet aspect-là, puis il y a la résilience, comme dirait quelqu'un qui est dans la salle, qui va régler tout ça. Bon, mais depuis le début du nucléaire, c'est-à-dire depuis Hiroshima et Nagasaki, il y a eu un enjeu. Et un enjeu, c'est de dire, d'accord, ça peut être une grosse explosion, à la limite une excursion nucléaire, s'ils appellent ça comme ça, un accident. Bon, là, c'est les fortes doses, voilà. Mais vous inquiétez pas, en dessous d'un seuil, qui peut changer dans le temps, hein, c'est pas un problème, on le diminue, on le remonte. Bon, je pourrais même expliquer comment il a été mis en place pour que les centrales puissent être rentrables. Enfin, la question n'est pas là. Et c'est en prolongement de ce que tu as dit par rapport à l'impossibilité d'avoir accès en France à un certain nombre de statistiques tout simples, qu'on peut avoir, hein, il suffirait que l'État l'accepte. Je raconte une petite chose qui se passait en France au début du nucléaire. Il y a un monsieur qui était un instituteur, il s'appelait Jean Pignereau, certains, ça dit peut-être quelque chose. Il avait organisé un truc qui s'appelait l'APRI, Association de protection des rayonnements ionisants. Et il a publié un livre, alors je pourrais en parler longtemps, mais je vais être bref, qui s'appelle « L'histoire que personne ne publie ». L'histoire que personne ne publie avait été publiée aux États-Unis par une dame qui s'appelait Mary Welk, et qui, aux États-Unis à l'époque, je ne sais pas comment c'en est maintenant, pouvait accéder en tant que citoyenne à ces statistiques de maladies. J'ai dit de maladie, parce qu'on parle beaucoup du cancer, etc. Mais ça, il y a les maladies cardiovasculaires, etc., etc. Donc l'enjeu est là. Et en France, il est hors de question. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Parce que ça, nous, on est tranquille. Là, la dose, bien sûr, l'État respecte les doses. Mais bien sûr, l'État respecte tout. Donc on risque rien. Bon. Une dernière information, et je m'arrête là-dessus, il y a un certain nombre quand même de gens qui essaient de travailler, dont vous, j'imagine, et notamment une dame, Annie Thébomoni, qui était la compagne de Pierre Pézerat, pour ça dire peut-être quelque chose à certains, qui travaille là-dessus. Elle travaille sur la santé au travail, et notamment sur le nucléaire. Et elle travaille notamment sur l'augmentation des cancers, des choses comme ça. Et elle a mis en évidence un certain nombre de choses. Et je pense que les Français, voire, comme tu dis, il n'y a pas de frontières, devraient s'interroger sur l'augmentation d'un certain nombre de maladies. Justement, et l'histoire des faibles doses, c'est vraiment de la fumisterie. Il n'y a pas de faible dose, il n'y a pas de seuil. Il n'y a pas de seuil. Une accumulation de radioactivité, même faible pendant un certain temps, va créer des maladies qui peuvent apparaître des fois trois générations après. Voilà. Et si les gens étaient conscients de ça, ben je pense qu'il y aurait peut-être un peu plus, peut-être dans la salle et aussi dans la rue et aussi dans les centrales, devant les centrales, et y compris par rapport aux gens qui travaillent. Voilà.
Une dernière question, parce qu'il va être l'heure de l'autre débat.
Moi, j'avais un peu de la curiosité. Tu disais tout à l'heure que le nucléaire avait été développé sur Pierre Latte dans les années 50. Moi, j'avais en tête que c'était au CEA à Grenoble.
Alors, il y a eu plusieurs lieux de recherche. Il y a eu en tout premier la pile Zoé à Saclay, en région parisienne, qui a été le premier réacteur, les premières tentatives de fission atomique en France. Et ils ont très vite décentralisé à Marcoule. À Pierre-Latte était produit la matière première, le plutonium, pour l'uranium et le plutonium, pour accélérer la recherche en matière militaire. Donc effectivement, il y a eu Saclay, il y a eu un labo de recherche à Grenoble, effectivement, mais la production et la mise au point de la fission nucléaire a eu lieu à Marcoule via les produits de Pierre-Latte.
Okay. Et juste une dernière question. J'ai pas compris tout à l'heure quand tu disais il faut se réapproprier les termes, je sais pas quoi, c'est de la destruction de l'atome, c'est pas du nucléaire. Du coup, je voulais savoir c'est quoi le mot nucléaire, d'où il sort, ça veut dire quoi?
Nucléaire veut dire le noyau. Donc, comme on explose le noyau d'uranium pour générer la réaction en chaîne, pour produire de la chaleur. On ne produit pas d'énergie. Enfin, si, il y a le développement d'énergie, mais on ne produit pas d'électricité. Donc, le mot nucléaire veut dire noyau. Et c'est un terme qui vise à masquer le réel. C'est l'arbre qui cache la forêt du réel, qui est la destruction de l'atome réel. Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais, attention, on parle de nucléaire, mais même là, on est encore dans le cadre idéologique dominant.
Je peux me permettre de rajouter un truc ? En fait, dans le noyau d'un atome, il y a effectivement une énergie qui s'appelle une énergie. Enfin, il y a quatre énergies en réalité, donc, dont l'énergie nucléaire. Et l'idée de la fission, c'est de libérer cette énergie et de la récupérer pour faire bouillir de l'eau et faire bouillir une marmite. Et ça vient de la nucléaire. Ça existe, l'énergie nucléaire.
Oui, oui, voilà. Mais ce qui se passe dans la réalité, c'est la destruction atomique. Artificielle, artificielle. Vouloir rajouter une radioactivité artificielle de façon à produire de l'énergie, soit pour la bombe, soit pour l'électricité, c'est un crime. On a assez de radioactivité sur Terre comme ça, notamment, surtout que depuis le début de l'ère atomique, la radioactivité sur Terre a été multipliée par deux, entre les essais nucléaires, les accidents, les incidents, les rejets quotidiens, y compris, comme le disait Serge, à faible dose. Voilà.
Moi, je me demandais, parce que sur le manque de mobilisation et tout ça, moi, j'ai l'impression aussi que c'est lié à l'écrasement de lutte antinucléaire qu'il y a eu, notamment dans les années 80. Et je me demandais quelle lutte il y avait eu dans le Sud-Est. Enfin, moi, j'ai entendu beaucoup parler de Golfech, Plogoff et la Meuse. Mais du coup, je me demandais s'il y avait eu des luttes dans le Sud-Est, comment ça s'était passé. Et toi, tu parlais de tentative d'empêchement de l'enquête d'utilité publique par rapport à ITER. Enfin, de, je sais pas, bordélisation, j'ai l'impression.
Ou de mascarade, je dirais, de quoi.
Je me demande passé, ça a pris quelle forme, en fait, les oppositions ici.
Ce moment-là, on a quand même réussi à faire une grosse manifestation contre ITER à Marseille, qu'on avait réussi à faire je crois que c'était 2005, à Pertuis, à Aix, on a quand même fait des grosses manifestations. Enfin, on a réussi quand même à faire. Par rapport à ITER, c'est qu'ITER, au début, on en a beaucoup parlé, c'est qu'on a réussi, et puis on avait réussi avec ITER. Non, ITER, on a réussi à mobiliser pas mal. Ça n'a pas duré, malheureusement. Après, notre association, ma médiane où j'étais, elle s'est dissous, c'est dommage. Mais par contre, on avait réussi à faire annuler l'ouverture du débat public qui était à Aix, avec le président japonais qui était venu. On avait envahi les locaux. Et puis après, les trois autres débats publics qu'on suivit, c'était pareil. Les salles ont été envahies. On a mis un bordel pas possible. Et donc voilà, il y a une bonne opposition. C'est vrai qu'on a fait une grosse manif à Marseille, mais c'est vrai que dans le Sud-Est, nous, on a fait dans Pertuis, à Aix, on a réussi à faire quelques manifestations. Mais c'est vrai, effectivement, il n'y a pas eu de gros. C'est difficile, ouais. Ça, on a. De mots. Avant, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de.
Non, parce qu'il y a eu un achat des consciences et que c'était des régions pauvres.
Oui. C'est ça.
Donc, ça a été perçu. En plus, on baignait dans un jus idéologique du progressiste. Hein. C'est le progrès, c'est la libération de l'être humain par la technologie nucléaire, c'est le développement de matériaux et d'engins qui vont libérer l'homme des contraintes des tâches ménagères et de toute une série de problématiques. Donc, depuis 60 ans en France, on baigne dans cette idéologie libératrice, mystique. Et sur le progrès et sur le productivisme qui a été effectivement, comme tu le rappelais, à la fois supporté par la bourgeoisie, par les classes dominantes et aussi par le parti communiste qui restait dans une idéologie productiviste qui, de mon point de vue, est une erreur d'interprétation de Marx. Mais ça, c'est autre chose. On peut en discuter. C'est un vaste débat. Sur le productivisme, le marxisme et l'anarchisme.
Oui, je rajouterais juste, c'est vrai que ça a été très difficile. Ça aussi, au début, le combat, ce qui était très dur, c'est que du part, tous les emplois que donne le nucléaire à Cadarache, par exemple, nous, Cadarache, tu as une personne, tu connais quasiment parmi les copains, tu as toujours une famille où il y a quelqu'un qui travaille à Cadarache. Bon, et c'était très dur, très, très dur de mobiliser et de mobiliser autour du nucléaire avec l'implantation, justement, de tous ces emplois qu'a donné Cadarache. Nous, ça a été très dur de mobiliser. Mais même nous, au début, on nous prenait pour des rigolos. Puis après, finalement, ils s'aperçurent qu'on en savait autant qu'eux, ou de voir même plus. Donc, voilà. Mais c'est vrai que la mobilisation était difficile par rapport à ça.
Mais il y a eu des luttes.
Mais il y a eu des luttes. Oui, il y a eu beaucoup de luttes, hein, même si elles n'ont pas toujours, mais il y a eu des luttes.
Je sens que le débat est vif. Vous pourrez continuer au bar, on fait une petite pause.